Vous écoutez RMC.
7h59, il fait beau.
Oui, un soleil qui va dominer presque partout aujourd'hui. Toujours ces hautes pressions, cet anticyclone. Mais quelques nuages débordent quand même près des frontières du nord et du nord-est. Ça donnera un ciel parfois gris entre les Hauts-de-France et le Grand Est, voire 2-3 gouttes. Ailleurs, un temps très sec, à peine voilé sur la pointe bretonne. Et peut-être, comme les jours précédents, quelques averses en montagne cet après-midi, voire un orage sur les Pyrénées. Toujours ce vent de nord-est sur la moitié nord qui rafraîchit un peu les températures. On a 0 degré seulement ce matin à Reims. Et cet après-midi, on partira de 13 degrés à Cherbourg pour aller jusqu'à 30 degrés à Biarritz. On est sur la moitié sud, 4 à 9 degrés au-dessus des normales, 28 à Bordeaux. Et puis sur la moitié nord, souvent entre 15 et 20 degrés, 17 pour Paris.
Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À la une ce matin, la violence des jeunes à travers le procès de l'adolescent qui avait poignardé une enseignante en 2023 dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz. Le meurtre d'Agnès Lassalle, souvenez-vous de son compagnon qui avait ému la France. Eh bien, il s'exprime ce matin. Dans ce journal, on va vous donner les dernières infos sur la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump parle trop, vous allez voir que c'est pas qu'une impression. Et sur la première demi-finale de Coupe de France de football aussi ce soir entre Lens et Toulouse.
C'est donc le début du procès d'une affaire qui avait bouleversé la France.
Oui, vous vous souvenez certainement du meurtre d'Agnès Lassalle, prof d'espagnol, poignardé donc en 2023 dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz par un élève de 16 ans à l'époque qui disait avoir entendu une voix. L'affaire avait d'autant plus ému que le jour des obsèques, eh bien le compagnon de l'enseignante avait dansé. Il avait dansé autour du cercueil avant d'être rejoint par des amis de l'enseignante Julie Brault du service police-justice à RMC. On entend la musique en fond. Eh bien, il s'exprime 3 ans après la mort de sa compagne.
3 ans sans Agnès, c'est long, souffle Stéphane Voirin. La voix chevrotante, le compagnon de la professeure assassinée, espère que ce procès lui servira enfin d'exutoire.
Et avec beaucoup d'impatience que j'attendais ce procès pour entendre la reconnaissance d'un acte violent, entendre ma qualité de victime.
Plus encore, il attend une prise de conscience quant à la violence qui persiste derrière les grilles des écoles.
Malheureusement, Agnès n'est pas la seule. N'est que la première. Dieu merci, certaines arrivent à s'échapper et peuvent encore en parler. Et je voudrais qu'on ait une pensée pour elle et je voudrais qu'elle ne soit surtout pas oubliée.
Mais les débats devraient avant tout se concentrer sur l'état psychologique de l'assassin présumé, alors que la cour va devoir trancher sur l'abolition ou non de son discernement lorsqu'il a poignardé sa professeure d'espagnol. Stéphane Voirin espère surtout qu'il assumera les conséquences de son geste.
Il est normal d'avoir à faire face à ses responsabilités, mais de ne pas oublier qu'à ce procès, Agnès Lassalle et elle, la victime.
Quoi qu'il en soit, à l'issue du procès, Stéphane Voirin s'est enfin promis de profiter de la vie et surtout d'en profiter pour deux.
Il est 8h03 sur RMC et c'est le flou ce matin, tout simplement, au Moyen-Orient. On ne sait même pas s'il va y avoir des discussions entre États-Unis et Iran, comme c'était prévu normalement au Pakistan. Romain Houk, pour RMC, vous allez nous détailler tout ça. Il y a la presse américaine qui écrit ce matin que Donald Trump parle beaucoup trop en ce moment et que ça a des conséquences.
Bah oui, les sorties récentes de Donald Trump dans la presse et sur ses réseaux sociaux auraient carrément fait capoter un accord de paix, pourtant tout proche, affirment nos confrères américains de CNN. Les Iraniens n'auraient pas apprécié en fait qu'il négocie par le biais des réseaux sociaux, ni qu'il affirme avoir trouvé des points d'accord quand ceux-ci n'auraient même pas encore été validés par l'Iran. Et avec le regain de tension du week-end, on ne sait même pas si les pourparlers censés démarrer aujourd'hui au Pakistan vont vraiment avoir lieu. Une délégation américaine doit se rendre sur place, mais les Iraniens affirment qu'ils ne viendront pas s'asseoir à la table des négociations tant que les États-Unis n'auront pas levé leur blocus dans le détroit d'Ormuz. Et Donald Trump lui répète qu'il ne le lèvera pas tant qu'un accord ne sera pas trouvé avec la République islamique. L'heure est plutôt aux menaces de part et d'autre. Si aucun accord n'est trouvé d'ici la fin du cessez-le-feu demain soir, alors beaucoup de bombes exploseront, dit Trump. Nous sommes préparés à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille, répond l'Iran.
Alors, conséquence de cette guerre chez nous en France, le gouvernement dit ce matin s'attendre à un dérapage des finances publiques prévu entre 4 et 6 milliards d'euros. Voilà ce que vient de dire le ministre de l'économie Roland Lescure en annonçant des annonces ce soir de la part du Premier ministre Sébastien Lecornu. L'autre conséquence, eh bien, c'est qu'on s'adapte. Encore une fois, de plus en plus de Français utilisent les transports en commun pour éviter en fait de prendre la voiture et donc d'avoir à faire le plein de leur voiture. Plus 25% de fréquentation dans les transports à Niort, plus 8% à Montpellier, plus 5% et même un record d'utilisation à Dunkerque en début de mois. Que des villes où les transports sont gratuits. C'est RMC qui a enquêté et qui peut donc vous révéler ces chiffres ce matin. Vous vous demandez, peut-être là, au moment où on se parle, si vous êtes concerné par la cyberattaque visant le portail de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Portail ANTS, comme on l'appelle, qui édite les permis de conduire, les cartes d'identité, les passeports et même les cartes grises. Des données ont été dérobées à la mi-avril, on le sait depuis hier, dans cette cyberattaque, et les personnes touchées sont en train d'être informées, Amélie Courtet.
Si vous êtes concerné, votre nom, prénom, adresse mail, date de naissance, identifiant de connexion ou numéro de téléphone sont susceptibles d'avoir été volés et vendus sur le dark web. Dans ces cas-là, pas grand-chose à faire.
Malheureusement, c'est fait. Les acteurs malveillants ont accès à cette information.
Éric Schmitlin est expert en cybersécurité.
Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question de que pourrait faire un acteur malveillant avec cette information. L'acteur malveillant pourrait être tenté de vous envoyer des SMS. Vous avez gagné un voyage, vous avez un remboursement d'impôts en attente. Enfin, en tout cas, un prétexte un peu contextualisé avec votre nom, prénom, adresse email, enfin des informations qui rendent ça crédible, pour derrière vous faire commettre une action qui peut être envoyer des informations, une carte bancaire, votre mot de passe ou autre.
Pour éviter les fraudes, un conseil.
Plutôt que de répondre aux mails, allez soi-même chercher l'information. Par exemple, vous recevez un mail des impôts, vous ne savez pas si c'est vraiment les impôts. Ce que vous faites, c'est que vous allez vous connecter sur le site des impôts et s'il y a un message des impôts, bah vous le verrez dans votre espace.
La vigilance doit être permanente, dit-il, dans les prochains jours comme dans les prochains mois.
Alors dans le sud de la France, c'est l'Agence régionale de santé qui appelle à la vigilance et qui ouvre une enquête après une épidémie de gastro-entérite touchant plusieurs centaines de personnes dans la commune de Rousset. On parle quand même de 300 personnes, hein, d'après le journal La Provence, près d'Aix-en-Provence, Rousset. C'est sans doute à cause de l'eau du robinet. Voilà pourquoi des milliers de bouteilles sont distribuées aux habitants en ce moment, nous dit la correspondante d'RMC dans la région, Anna Jojard.
Dans la salle des fêtes de Rousset, les habitants se succèdent pour récupérer de l'eau minérale en bouteille.
J'ai pas pris l'eau depuis samedi.
Depuis samedi.
Vendredi, je suis venu.
Philippe est tombé malade avant l'interdiction de consommer l'eau du robinet décrétée jeudi.
Ah ben c'était terrible. On se demandait ce qui se passait puisque on a eu des symptômes, si vous voulez, d'un coup. On a pris des médicaments. Bien sûr, les médicaments, on les a pris avec quoi ? Avec de l'eau. Donc c'était en fait un cercle sans fin. En fait.
Bernadette aussi a été malade comme une partie de sa famille. Elle raconte aujourd'hui l'angoisse pour éviter d'être contaminé à nouveau.
Tu vas à la salle de bain. Ah, il faut surtout pas se laver, brosser les dents avec l'eau du robinet. Tout ce qui est vaisselle, j'ai pas de lave-vaisselle, moi. Donc, fais bouillir l'eau. En plus de ça, quand l'eau est bien bouillante, je verse sur ma vaisselle à faire.
Plus de 50 000 bouteilles d'eau ont été distribuées depuis jeudi. Philippe Pignon est le maire de Rousset.
Ce que l'on constate dans les rues, il semblerait que le pic de l'épidémie ait été atteint, que le nombre de cas diminue depuis quelques jours.
Mais le maire reste prudent, la consommation d'eau du robinet est toujours interdite en attendant les résultats de l'enquête des autorités sanitaires.
Une question ce matin, qui remportera la Coupe de France de football cette année ? Ce ne sera pas Paris, déjà, ça c'est une info, Paris qui a été éliminé, il y a donc du suspense. Et il y aura la première demi-finale ce soir à 21h10, on vivra ça sur RMC entre Lens et Toulouse, qui est d'ailleurs le dernier vainqueur autre que Paris, c'était en 2023. Mais ce sont bien les Lensois qui sont favoris, qui rêvent du titre, nous dit Jean Baumel à Lens pour RMC.
Chez les supporters lensois de la section des Good Boys de Waterloo, la Coupe de France est un véritable objectif.
Tous les ans, on dit, on veut gagner la Coupe de France, on n'a pas la Coupe de France. Plus proche que jamais.
La Coupe de France, ça serait le summum, quoi. La cerise sur le gâteau.
Toulouse ne battra pas Lens à Lens. Normalement, c'est pour nous. Direct sur le Stade de France. Rendez-vous au mois de mai à Saint-Denis.
Pour l'attaquant sans or, Florian Sotoka, remporter cette compétition pour la première fois cette année serait symbolique.
Ça fait 120 ans que le club a été créé, c'est une très belle date et ça serait forcément un très beau cadeau d'anniversaire que d'amener le peuple lensois en finale de Coupe de France.
Pour cette demi-finale, Lens retrouve Toulouse qu'il a battu difficilement vendredi dernier en Ligue 1. Pour l'entraîneur Pierre Sage, le public de Bollaert aura une nouvelle fois un rôle important pour aller en finale.
Vendredi, je pense que sans eux, on n'y serait pas arrivé. C'est nous qui avons de la chance de jouer devant eux déjà. Il y a des matchs dont on se souvient et j'espère que celui-ci en fera partie.
Quasiment qualifié pour la Ligue des Champions, Lens espère bien finir sa saison avec un trophée le 22 mai au Stade de France.
Et pendant ce temps à Marseille, c'est la crise. Double dose d'entraînement aujourd'hui et demain après la déconvenue du week-end dernier. Mise au vert même pour les joueurs à partir de jeudi et pour 3 nuits jusqu'au match de dimanche contre Nice.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le chiffre comme chaque matin. Pendant que les Français espèrent des aides pour alléger leur facture de carburant, le gouvernement va tailler dans les dépenses.
Eh oui, c'est la journée du grand écart.
C'est ça.
Pour le gouvernement, pour Sébastien Lecornu, pour Roland Lescure, le ministre de l'économie, puisque d'un côté, effectivement, on a les Français qui espèrent que ce gouvernement va desserrer les cordons de l'argent public, les cordons de la bourse, en baissant les taxes sur les carburants. Et Roland Lescure vient d'annoncer qu'effectivement, ce soir, des mesures seraient proposées. Alors, peut-être pour aller vers encore quelques professions qui roulent beaucoup, ou alors peut-être même pour tous les gros rouleurs à budget modeste qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Mais dans la même journée, Apolline, ce gouvernement se prépare aussi à annoncer qu'il va resserrer les cordons de la bourse. Pourquoi? Eh bien, l'équation, elle est assez simple. La guerre en Iran va amputer la croissance de 0,1 à 0,2 points de PIB. Ça veut dire des recettes fiscales en moins, un peu plus de dépenses sociales. Bref, une facture au moins de 3 milliards de pertes pour les finances publiques. La hausse des taux d'intérêt pourrait alourdir la charge de la dette de plus de 1 milliard. Le gouvernement, donc, au dernier comptage, prévoyait de lâcher 130 millions, mais ce sera sans doute plus pour les personnes en difficulté à cause de la hausse des carburants. Il dépense 135 millions par mois pour ses opérations militaires. Bref, pour tenir l'objectif d'un déficit à 5% du PIB, objectif auquel il est hors de question de renoncer, dit Sébastien Lecornu, il faut trouver 4 à 6 milliards d'euros d'économies.
Ces économies, il va aller les chercher où ?
Alors, on va le savoir à l'issue du comité d'alerte sur les finances publiques qui se tient ce matin. L'effet, alerte, absolument. L'effort devrait être en grande partie assumé par l'État et les administrations centrales, un peu aussi par la sécurité sociale, mais les collectivités locales seraient épargnées. La priorité va porter sur la réduction des coûts de fonctionnement, sur le gel supplémentaire de crédit, sans doute 3 milliards, sur des annulations carrément de crédit autour de 1 milliard. Un nouveau coup de rabot sur les exonérations des cotisations patronales est envisagé. Pourquoi pas au niveau européen aussi une taxe sur les entreprises qui ont profité de la crise et notamment les énergéticiens. Bref, pas de loi de finances rectificative prévue à ce stade. Mais l'important, c'est vraiment de convaincre les marchés financiers que la France tient désormais ses engagements budgétaires.
Et on aura des précisions ce soir, donc, Sébastien Lecornu qui devrait s'exprimer pour préciser le contour de ces aides. Les prix du jour, Emmanuel.
Alors, le gazole, ben, ça continue de baisser assez nettement. On est à 2,15 euros le litre. Hier, on était à 2,18 et on était à 10 centimes de plus il y a une semaine. Alors, c'est plus compliqué sur le sans-plomb 95, où là, vraiment, on a un nouveau seuil de résistance autour de 1,95 euros le litre. Le pétrole, vraiment, on a un équilibre, alors avec beaucoup de volatilité, mais autour de 95 dollars le baril. Là, on est à 94,3. Et puis, le gaz, on passe
continue à redescendre gentiment
sous les 40 euros le mégawattheure. On était quand même à 60 il y a un mois.
Merci Emmanuel, il est 8h12 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Mathieu, les réactions à la fois au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission sur les prix.
Avec les prix des carburants qui battent des records ces dernières semaines, cette question, est-ce qu'on va faire face à un choc inflationniste, à une hausse des prix à la consommation? Mathieu nous écrit en réaction aux industriels qui demandent de revoir certains prix. Ce qui est rigolo, c'est que lorsque ça augmente, il est impératif de répercuter. Mais lorsque ça baisse, on nous dit que les prix sont bloqués. Roland lui écrit, et si c'est l'inverse, brusque baisse des matières premières, est-ce que ce monsieur, notre invité qui représentait l'ANIA, viendra nous expliquer qu'il faut renégocier à la baisse? Demande Roland avec un peu d'ironie. Vous l'aurez compris, Alexis nous dit c'est trop facile de rouvrir des négociations alors que les consommateurs finaux ont déjà du mal à payer des courses. Ils peuvent aussi baisser leur marge pour que les consommateurs s'y retrouvent un minimum. C'est ce que nous écrit Alexis ce matin au 06 12 424 424.
Dans un instant, Arnaud Demange va venir nous rejoindre, bien sûr, à 8h30. Notez-le, mon invité dans le face-à-face, c'est l'ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Évidemment, on l'interrogerait sur les négociations à venir entre États-Unis et Iran, peut-être la fin du conflit, quel scénario, mais aussi sur sa candidature, de moins en moins secrète, pour l'élection présidentielle. Et puis juste après, le meilleur de Nicolas Canteloup, comme tous les jours à 8h50 sur RMC. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h15 et comme tous les jours, pour notre plus grand bonheur, Arnaud de Manche est avec nous.
Mais oui, bonjour à tous. Ah, tiens, Apolline, ouais. Mathieu, les amis, oui. J'ai une super nouvelle pour vous. Attention, vous allez être contents. car les salles de sport Basic Fit vont ouvrir la nuit. Vous allez pouvoir faire votre muscu avant de venir à la matinale.
C'est Apolline, tellement à l'américaine.
1h du mat, ça
bien
va
sûr,
être génial.
Bien sûr.
Apo, elle va faire son développé couché, des fentes bulgares avec des kettlebells, boxer, des punching balls en disant « Alors Villepin, tu veux pas répondre ?» Ils viennent d'où tes sous ? Et Apo, elle verra aussi débarquer Alain Bauer dans le Basic Fit, qui sera en micro-short fluo. Oh, quelle coïncidence, Apolline. Vous ici, vous savez que je viens de sortir mon nouveau livre. Ça s'appelle « C'est la loose dans le détroit d'Ormuz ». Et c'est l'histoire d'un bel aventurier moustache. Je sais, Alain, je sais. Appelez ma programmatrice. Elle a bloqué mon numéro. Et toute l'équipe de BFM Business serait là aussi. Manu Le Chypre et Edwige Chevrillon.
T'as vu Edwige ? Je suis sur cette machine depuis une heure. Je tiens bien le coup, hein.
Oh, Choubinou, comme tu es fort ! C'est la machine à confiserie.
Ah oui.
Rejoins-moi sous la douche. On va voir combien de kilos tu peux soulever au développé couché.
Oh non.
Mon Schwarzenegger des OPCVM. Mon Jason Statham des SICAV obligataires. Mon Stallone des trackers à double effet de levier. Oh, oh. Dis-moi des mots dégoûtants.
Taxation des hauts revenus.
Oh, bon. Oh, c'est sale. C'est sale. Bon, non, moi j'aime bien l'idée que les Basic Fit ouvrent la nuit parce que en fait, quand ils ouvrent le jour, j'ai aucune excuse pour pas y aller. Alors que la nuit, je peux dire, ah, mais bon, c'est la nuit quand même. La nuit, on dort. Et alors, à propos de salles de sport, avez-vous vu cette polémique géniale après les déclarations d'une journaliste du Figaro, Anne de Guigné, invitée du club Figaro ID? Elle a déclaré ceci.
Fliche des efforts, mais colossaux. Et même les salles de sport qui se multiplient dans toutes les villes françaises et en fait qui cultivent une vraie nostalgie de l'usine. Une nostalgie du monde industriel.
J'avoue que j'avais vu. Je lui ai dit, en fait, c'est une nostalgie
de l'usine. C'est une nostalgie de l'usine. C'est pour ça qu'on va à la salle
de sport. Ça cultive d'ailleurs cette nostalgie.
Oui, on est nostalgique de l'usine. Et c'est vrai que c'est puissant cette nostalgie. Tous ces gens sur les rameurs, hein, cette nostalgie des galères romaines, le bon vieux temps.
Voilà.
L'envie de perdre du poids, mais non, mais on était mieux du temps des famines.
Oui.
On avait un rat crevé à Noël, mais nostalgie. On était heureux. Nostalgie. Il n'y avait pas de problème de surpoids. Voilà. On n'était pas nostalgique à l'époque. On n'avait même pas le temps d'être nostalgique. On mourait à 30 ans.
Bah oui.
C'était vachement mieux. On n'avait pas le temps, quoi. Voilà. Vous savez, moi, si je fais de la muscu aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas pu y aller à l'usine. Moi, mes parents, ils m'ont obligé à faire des études d'art. Je leur avais dit, je vais être tourneur-fraiseur dans une usine de bagnole. Merde, quoi. Et ils m'ont dit, non, tu peins des femmes nues dans une verrière. Mes muscles. Et voilà, aujourd'hui, regardez le résultat. Voilà. Regardez le résultat. Alors que j'aurais pu faire de la soudure industrielle sur des camions et après les Jeux Olympiques.
Voilà.
Puis c'est fou, hein, cette mode. Toutes les meufs de télé-réalité qui sortent avec des ouvriers, en ce moment, ça n'arrête pas.
Salut les chouchous. Aujourd'hui, je suis allé à la sortie de l'usine de Lavelage de Roubaix pour voir mon chéri. C'est Michel, 30 ans d'usine. Vous verriez le summer body. Franchement, les meufs, réalisez votre rêve, sortez avec un ouvrier. C'est beau, cette nostalgie. C'est beau.
Hier, Arnaud, le MEDEF a donc reçu à déjeuner le président du RN, Jordan Bardella, pour échanger sur des sujets économiques.
Oui, alors le patron du MEDEF a accueilli Jordan. Bonjour, monsieur Bardella. Alors, qu'est-ce que vous connaissez du monde des affaires ? Des affaires au RN, on en a plein. On a l'affaire des parlementaires européens, l'affaire des kits de campagne. Non, mais des affaires du business. Vous faites un peu du business ? Oui. Avec la Russie, par exemple.
Voilà.
Non. Qu'est-ce que vous proposez pour aider les TPE ? Eh bien, les TPE, grand 2, les TPE, des fois, on met sa carte et ça marche pas. Donc, mais c'est bien embêtant. Non, mais c'est pas ça, les TPE. Ah. Moi, ma copine, c'est une princesse.
Ah oui.
On n'est pas sorti du sable.
C'est pas gagné.
Pas du tout.
Et puis, Arnaud, c'est toujours la crise dans le détroit d'Ormuz.
Ah oui. Aïe, aïe, aïe.
Zut.
Ah, pop. Quelle histoire. Eh ouais. Ouais. Bah, il va falloir tenir jusqu'à juin avec le sujet. Hein. Alors, aux dernières nouvelles. Les dernières nouvelles.
Oui.
Dernières nouvelles.
Allons-y, les dernières nouvelles.
A menacé de détruire les ponts en Iran si les pourparlers de paix échouent. J'espère que Macron va pas s'inspirer de lui, qu'il va pas faire « Mais voilà, Ça, c'est bien. Vous aussi, les Gaulois, faudrait vous faire sauter vos ponts, là. Votre connerie de 1er mai, allez, ça dégage. L'année prochaine, c'est dehors. Et le pont du 8 mai, et hop, à l'usine. Ça vous rappellera la salle de sport. Et le pont de l'Ascension. Vous en avez combien, des trucs? Regarde, au moins, le pont de Ligonnès, lui, il a disparu, celui-là. Allez, à demain.
À demain. Arnaud Demange, tous les jours avec nous pour le plus grand plaisir. Arnaud, qui peut être évidemment à tout moment aussi en podcast et qui va être sur le terrain. Bah oui, ouais. Parce qu'il fait son tour de France comme Gabriel Attal. En tournée à Genève, à Montpellier, à Reims, à Chambéry, à Orange, à Gaillac ou à Morières-les-Avignon, un spectacle RMC. Il est 8h21, dans un instant, le face-à-face. Mon invité sur RMC et BFM TV, c'est Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. On va évidemment revenir sur les scénarios des toutes prochaines heures. L'Iran, les États-Unis, Israël, le Liban, mais également sur sa candidature de plus en plus évidente à l'élection présidentielle. Il propose quoi, tiens, pour la vie quotidienne des Français? Il propose quoi pour le carburant, pour les retraites? Je pose les questions à Dominique de Villepin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique de Villepin.
Bonjour.
Merci d'être mon invité ce matin et de répondre à mes questions. Vous êtes l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, de plus en plus, on le verra, candidat à l'élection présidentielle. D'abord, évidemment, la situation, la guerre. Demain soir, fin du cessez-le-feu entre États-Unis, Israël, Iran. Possible négociation donc au Pakistan. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre et à qu'est-ce qu'il serait souhaitable?
Alors nous sommes un peu dans la chronique d'une catastrophe annoncée. Donald Trump a, par son esprit et ses foucades, créé une situation qui est aujourd'hui tragique au Moyen-Orient et on le voit, qui pèse sur l'ensemble du monde et très fortement sur l'économie mondiale. Il ne connaît que la marche en avant militaire ou le retrait pur et simple. Nous sommes dans un temps où il faut espérer que la diplomatie puisse reprendre ses droits. On voit la deuxième session diplomatique qui s'ouvre au Pakistan. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ces négociations puissent aboutir dans l'État. C'est un jeu de poker menteur. Les Américains voudraient une victoire absolue, au moins déclaratoire, et les Iraniens ne sont pas prêts à lui accorder cette victoire. Donc aujourd'hui, on a besoin de tiers de confiance, on a besoin que les États de la région reprennent la parole, on a besoin que l'Europe joue son rôle, et le Sud global également.
Est-ce que ce personnage, cette tierce personne, ou est-ce que c'est nous, l'Europe? Est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que c'est l'OTAN? Qui est-ce que, d'après vous, devrait rentrer dans la danse?
Alors, je pense que c'est bien sûr des intermédiaires qui sont bien placés vis-à-vis des deux parties. Vous citez le Pakistan, il en fait partie, mais pas seulement. Je pense que aujourd'hui, c'est la conjugaison des États de la région qui ont subi cette catastrophe extrêmement durement. Le modèle politique et économique est très affecté pour ces États. Je pense aux Émirats Arabes Unis, Dubaï. Qu'est-ce que Dubaï aujourd'hui dans l'insécurité de cette région? C'est vrai pour d'autres Émirats et c'est même vrai pour l'Arabie Saoudite et ses grands plans pour l'avenir. Tout cela est en panne. Nous avons donc besoin de soutien diplomatique. L'Europe a un rôle important à jouer et je crois que nous avons besoin de réactiver certains forums.
Vous parlez de
le Conseil de sécurité est bloqué. L'Assemblée générale pourrait être l'enceinte où se mettent ensemble une coalition de pays qui offre au moins à Donald Trump et à l'Iran un chemin. Il s'agit de dessiner un chemin montrant qu'il est possible de sortir en dehors des armes et de cette guérilla qui peut se prolonger longtemps. On peut imaginer qu'il y ait ainsi des allers-retours de frappe.
Ça, c'est un des scénarios que vous dites possible.
Et quand on sait que 40% du kérosène européen passe par le Golfe, 80-90% pour l'Asie, quand on sait qu'une grande partie des énergies fossiles, pétrole et gaz, le font de même, les engrais, on voit bien que cela va peser considérablement.
Vous dites c'est le moment de la diplomatie. Négocier quoi?
Alors, il faut remettre sur la table ce qui était déjà, et nous voyons bien à quel point nous avons régressé. Il ne faut pas se tromper. Cette guerre est une guerre non seulement pour rien, mais c'est une guerre qui nous ramène en arrière. Il faut absolument reprendre la question nucléaire. Il y a par ailleurs la question des missiles. On sait tous l'insécurité dans laquelle vivent aujourd'hui les États du Golfe et Israël qui sont susceptibles d'être touchés par ces missiles. Donc voilà déjà deux gros sujets qui sont sur la table. Et il y a par ailleurs la question maintenant du détroit d'Ormuz qui s'ajoute à cela, parce que les Iraniens ont pris conscience qu'ils avaient là dans la main une arme considérable, et c'est un enjeu pour toute la communauté internationale. Et nous avons besoin par ailleurs de sortir de la logique aujourd'hui des sanctions qui pèsent évidemment très lourdement sur l'économie iranienne, et de penser à l'avenir.
Lever ces sanctions.
Penser à l'avenir du peuple iranien, je pense qu'il faut rester très très ferme sur le régime, tout en étant soucieux d'ajuster ses sanctions pour que le peuple iranien lui-même voit sa souffrance.
Comment on fait pour être ferme et en même temps ouvrir?
C'est le ciblage des sanctions, c'est le ciblage des responsables. Nous avons, depuis plusieurs mois maintenant, un paysage assez précis de qui fait quoi dans le nouvel Iran. Eh bien, que nous soyons très soucieux de faire peser une épée de Damoclès sur ceux qui sont ces responsables, pour bien marquer que la communauté internationale n'accepte pas l'impunité. Nous avons vu la catastrophe effroyable du début de l'année, ces dizaines de milliers de morts en Iran. Nous ne pouvons pas accepter qu'à la faveur de la situation de confusion actuelle, un nouveau cycle de répression s'engage en Iran. Car c'est bien ce que nous avions annoncé, la crainte que le régime ne se renforce à la faveur de la guerre, ne se durcisse. Et bien évidemment, ceux qui en supportent
vous
les premiers les conséquences,
le mot catastrophe.
C'est les Iraniens.
Vous utilisez le mot catastrophe, vous dites c'est la chronique d'une catastrophe annoncée. Qui est aujourd'hui en position de faiblesse? Est-ce davantage les États-Unis ou davantage l'Iran?
Alors, c'est paradoxal, l'Iran est en position de faiblesse militaire, et c'est en cela que la guerre menée par l'Iran, elle est faite avec les moyens de l'Iran, qui sont les moyens du pauvre, en quelque sorte, c'est-à-dire les drones, les quelques missiles qu'ils sont encore capables de fabriquer, et un esprit de résistance qui lui est extrêmement solide. Les Américains ont complètement oublié qu'entre 80 et 88, les Iraniens face à l'Irak avaient été capable de se confronter au pire, partant avec la petite clé du paradis autour du cou sur des champs de mines. C'est donc une population, un régime en tout cas, qui est capable d'une souffrance extrême. On le voit d'ailleurs également dans d'autres théâtres. Cette souffrance, elle fait que l'Iran a une capacité de résistance.
Quand vous dites souffrance, c'est quoi? C'est une sorte de kamikaze?
Mais
c'est une logique kamikaze?
C'est un quelque chose qui les pousse à continuer à se battre, qui est plus grand qu'eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime toujours. Les Américains l'ont sous-estimé vis-à-vis des Afghans. Nous l'avons sous-estimé, nous, dans les guerres napoléoniennes. On doit prendre en compte qu'il y a quelque chose, quand on défend son territoire, qui est difficilement battable. Et la première puissance du monde, eh bien, elle a calé en Afghanistan, elle a calé en Irak, eh bien, elle cale aujourd'hui en Iran. Alors, on pourrait aller vers l'écrasement total, et on ne peut pas complètement exclure que l'idée même d'employer, par exemple, l'arme nucléaire n'ait pas effleuré certains dirigeants américains.
L'idée d'utiliser l'arme nucléaire, malgré le fait qu'il l'ait nié, en réalité a été envisagée et peut-être encore envisagée.
Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus désinhibé, et ça dit beaucoup de la...
Désinhibé, ça vous vous dites potentiellement...
Oui, désinhibé, c'est-à-dire...
À un moment,
capable,
le président américain pourrait appuyer sur le bouton
capable
nucléaire.
Capable de choses qui nous paraissent aujourd'hui impossibles à penser. Et nous devons avancer dans ce monde, dans notre bataille pour la souveraineté européenne, pour la souveraineté française, avec l'idée que les risques deviennent aujourd'hui beaucoup plus importants.
J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Évidemment, on va revenir sur la question aussi du Liban. Mais sur le coût, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un coût considérable pour le reste du monde. La France estime que rien que pour nous, ça va être 4 à 6 milliards d'euros en moins pour le budget de l'État. Le gouvernement qui est donc prêt à geler un certain nombre de dépenses, il va l'annoncer dans la journée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la France aujourd'hui prend les bonnes décisions? Par rapport à nos voisins, on aide beaucoup moins. Il y a eu des baisses de taxes qui ont été faites en Italie, en Espagne, en Allemagne. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les réponses du gouvernement sont à la hauteur des inquiétudes des Français?
Malheureusement, le gouvernement n'a pas anticipé cette crise qui est le devoir de tout gouvernement dans une période aussi volatile. Nous nous retrouvons donc à faire ce que nous pouvons, c'est-à-dire aider les professions les plus touchées. Nous allons devoir faire plus, je pense en particulier pour les ménages qui sont dans des zones rurales et qui ont absolument besoin de la voiture pour travailler.
Vous aviez
c'est
évoqué
le cas de la filière libérale.
Une carte carburant.
Et je pense que la carte carburant qui serait dans la main des maires sous condition de ressources, c'est sans doute le moyen d'engager...
C'est un chèque, enfin c'est une sorte de chèque.
Oui, d'engager le moins les finances publiques possibles, tout en faisant le nécessaire pour que certaines personnes ne se retrouvent pas dans un total dénuement. Nous devons, par ailleurs, faire plus, parce qu'on ne peut pas complètement exclure que le prix de l'essence dépasse les 2,50 €. Si c'est le cas, il faudra alors que nous créions une caisse de compensation avec une capacité d'écrêtage, c'est-à-dire si ça dépasse, eh bien nous devrons apporter une aide en baissant l'accise sur les produits pétroliers, et si ça descend au-dessus de 2 €, eh bien nous devrons augmenter alors la taxe, ce qui veut dire que ce
sera... En fait, c'est une sorte de TIPP, enfin ce qu'était la TIPP flottante.
Absolument, c'est une compensation écrêtage vers le haut et lissage vers le bas, ce qui permet à coût égal de faire face à la période la plus dure
vous
si elle se produit.
Vous mettez à combien le plafond ?
Je pense que autour de 2,50 €, c'est le plafond à partir duquel il faudra intervenir. Venir, parce que nous changeons alors d'ordre et de situation. Et
on évoque, on commence à évoquer au gouvernement l'idée d'un prélèvement exceptionnel sur les entreprises qui auraient profité de ce moment. Alors, on pense notamment à Total.
Oui, ça c'est très important. Ni profit, ni rente sur la crise et sur le dos des
Français. Il y a des profiteurs.
C'est en tout cas ce quelque chose qu'il faut évacuer. Et là, le gouvernement a un peu flotté, en tout état de cause, il doit faire la lumière. Et donc, moi, je suis pour qu'on fasse toute la clarté sur les éventuels profits, les éventuelles rentes de situation dont ont pu bénéficier certains pétroliers. On parle effectivement de Total qui a joué sur les marchés. Je crois que ceci doit être
évacué. Avec des conséquences éventuelles, c'est-à-dire si on constate effectivement qu'il y a une forme de rente qui en est sortie, alors on taxe.
Il faudra prendre les mesures nécessaires, mais il est clair que personne ne doit pouvoir s'enrichir sans motif dans cette période sur le dos des Français. Le principe de responsabilité et donc de clarté nécessaire. Nous sommes dans des démocraties qui sont fragilisées et donc le premier devoir que nous avons, c'est d'être juste. L'exigence de justice sociale est absolue.
Le Liban, négociation qui devrait reprendre entre le Liban et Israël, qui devrait prendre tout court d'ailleurs parce que c'était une sorte d'introduction ce qui a eu lieu la semaine dernière. Est-ce qu'à vos yeux c'est un espoir ?
Alors c'est un espoir dans la mesure où les armes se sont pour le moment tues, même si nous voyons que les effractions au cessez-le-feu sont très nombreux et que malheureusement on continue à mourir aujourd'hui au Liban. Donc il faut saisir cette situation pour clairement marquer à la fois le possible et les limites du jeu. Nous devons sortir de l'équation dans laquelle et le Hezbollah et Israël, dans une partie très dangereuse pour le Liban, prennent en otage ce pays. Il faut donc faire en sorte d'avancer dans la voie de la démilitarisation. En l'état actuel des choses, l'armée libanaise peut difficilement faire cela seule. Donc moi je suis pour que nous ayons un renforcement de la FINUL, voire une coalition de pays qui puisse aider l'État libanais a désarmé le Hezbollah. Parallèlement, il faut un processus politique, parce que ceci ne peut pas être fait sans qu'il y ait un engagement extrêmement clair d'Israël à se retirer complètement de la zone qui est actuellement
occupée. Le sud du Liban, les fameux 10 et plus kilomètres.
Et à ne pas continuer à tirer comme ils le font aujourd'hui, un jour sur Beyrouth, un jour sur la vallée de la Bekaa. Donc nous devons poser cette équation politique et ce renforcement du dispositif qui serait susceptible de conduire au désarmement. Je pense que l'Assemblée générale, là encore, l'Assemblée générale des Nations Unies peut être un moyen de donner une légitimité. Et la France, qui, ne l'oublions pas, a fait voter la résolution 1701 en 2006, a une responsabilité particulière.
La France qui d'ailleurs recevra aujourd'hui le Premier ministre libanais, il sera reçu à l'Élysée. Est-ce que le Hezbollah, à vos yeux, aujourd'hui, qui est quand même le troisième acteur fantôme de ces négociations, puisqu'on parle d'Israël et du Liban, mais le Hezbollah dit déjà ne pas reconnaître ces potentielles discussions, avec même une sorte de menace de plus en plus claire à l'encontre de la vie même du président libanais. Est-ce que aujourd'hui le Hezbollah peut continuer à être un parti officiel, légitime au sein du Liban ?
On peut faire des déclarations, la réalité elle est là. Il y a la réalité d'un Hezbollah politique et la réalité d'un Hezbollah militaire. Faire en sorte de casser le lien de dépendance entre le Hezbollah militaire et l'Iran, faire en sorte de donner au Liban toute sa souveraineté, de contrôler ses frontières pour que les armes cessent d'arriver. Si l'on veut désarmer le Hezbollah, il faut que les armes n'arrivent plus à l'intérieur du Liban, à partir des frontières. Donc ça suppose de prendre un certain nombre de mesures, et ça suppose donc des moyens. Je pense
donc que... Donc on peut garder un Hezbollah politique.
Je pense que le parti politique, il a vocation à se transformer et à prendre acte de la nouvelle période dans laquelle le Liban doit rentrer. Ce n'est possible que si Israël arrête de vouloir tondre la pelouse tous les quatre matins, arrête de bombarder à tout va le Liban et se retire extrêmement clairement. On voit bien que ce n'est pas tout à fait l'intention de Benjamin Netanyahou, qui poursuit partout sur l'ensemble des fronts aujourd'hui sa volonté d'une guerre malheureusement sans fin.
Dominique de Villepin, vous êtes donc l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre, et de plus en plus candidat à l'élection présidentielle. Alors vous ne le dites pas tout à fait officiellement, mais quand on regarde ne serait-ce que vos réseaux sociaux, vous avez lancé un quasi-clip de campagne, ça s'appelle « La France que nous aimons ». Il y a des morceaux de votre grand discours devant l'amphithéâtre de la Sorbonne. Il y a ce que vous aimez de la France, dites-vous. Il y a vos inquiétudes sur la fin d'une idée universelle, sur la fin d'une sorte de vivre ensemble, on le sent bien. Vous êtes de droite ou vous êtes de gauche ?
Alors, nous sommes à la fin d'un cycle. Je vais essayer de vous répondre précisément. Nous sommes à la fin d'un cycle qui a commencé en 2007. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. J'ai une conviction, c'est que le sarkozysme, le hollandisme et le macronisme ont fait leur temps. Il faut tourner la page. Nous sommes aujourd'hui en train de rentrer dans un nouveau monde, à la fois sur le plan international et en même temps sur le plan national. Et ce constat apporte en moi une conviction. Et cette conviction, c'est que tous ceux qui aujourd'hui ont été ou sont les héritiers de ces trois périodes
vont devoir quoi ? Quitter
la
scène ?
Beaucoup de mal à porter une ambition.
Donc on revient
dans
au chiracisme. Est-ce que
présidentielle,
je vois bien que ça commence pour vous effectivement après le chiracisme, cette période dont vous dites qu'il faut qu'elle s'arrête.
Après tous ceux qui, dans la Ve République, du général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand et Jacques Chirac, ont eu une conception de la fonction présidentielle qui était à la hauteur des besoins. C'est-à-dire une fonction d'arbitre. Nous aurions bien besoin d'un arbitre aujourd'hui dans notre pays pour rétablir la sérénité, pour permettre à nos institutions de fonctionner. Un arbitre, un garant et un stratège. La grande ambition française aujourd'hui, elle est double.
Ça veut dire que vous n'allez pas rentrer, c'est-à-dire on le voit bien pour l'instant dans vos discours, c'est effectivement des stratégies, des grands plans pour la France, mais pour l'instant, je ne sais pas en tout cas ce que vous pensez de l'âge légal de la retraite, de la légalisation du cannabis, de la question des impôts, des charges, du chômage.
Toutes ces questions sont importantes, mais le grand enjeu pour la France, c'est d'être capable de mener une double bataille, la bataille de la souveraineté. Comment faisons-nous pour rester un pays indépendant dans les prochaines années, à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe ? Mener la grande bataille qui s'annonce pour 2027 et qui prime sur toutes celles que vous avez annoncées, qui est la bataille de la démocratie. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir en 2027, nous changeons de monde, nous entrons dans une démocratie illibérale.
Votre ancienne famille politique, c'est-à-dire la droite, aujourd'hui est représentée par des gens comme Bruno Retailleau, qui lui met dos à dos le Rassemblement national et la France insoumise. Est-ce que vous estimez que le danger est le même d'un côté ou de l'autre ?
Mais le petit théâtre politique aujourd'hui, tel que nous le voyons, c'est un théâtre ancien. Et les personnages qui s'agitent sur la scène et qui gesticulent sont des personnages de carton-pâte. J'écoutais hier Bruno Retailleau égrener ces quelques mesures. Est-ce que vous pensez, en appliquant tout cela, que c'est susceptible de changer notre pays ? Aujourd'hui, nous sommes dans une épreuve
mais
terrible.
Mais vous ne m'avez pas dit si vous étiez droite ou gauche.
Oui, mais j'y viens. La question de la démocratie et la question du rassemblement sont incontournables. Quoi qu'il arrive en 2027, vous ne pourrez pas faire passer des réformes avec 50% plus une voix. C'est-à-dire que la démocratie représentative ne suffit pas. C'est-à-dire qu'être de droite ou de gauche ne suffit pas. Les candidats de droite ou de gauche ne pourront pas gouverner la France après 2027. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons inventer un nouveau modèle de démocratie, à la fois sociale, qui rassemble les partenaires sociaux très en amont des réformes, en même temps citoyenne. Il faut embarquer tous les citoyens. C'est-à-dire qu'il faudra réhabiliter le référendum, et en même temps, il faudra, à travers les conventions citoyennes, faire vivre notre démocratie. Il faut donc se convaincre qu'une réforme des retraites à 50 plus 1 ne passera pas plus que n'est passée la réforme Macron. Et ça veut dire
donc
quoi ?
Ça veut dire
qu'il faut un président qui soit capable de présider et qui soit donc capable de dépasser le clivage de la droite
donc
et de la gauche.
Ni de droite ni de gauche.
Je suis gaulliste. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je peux, et nous ne sommes pas nombreux, travailler avec tout le monde. Je peux travailler avec les partis politiques tels qu'ils sont, tout en laissant les partis politiques...
Avec tous, c'est-à-dire, est-ce que vous accepteriez de travailler avec le RN et avec LFI ?
Je l'ai dit clairement, je ne mets pas le Rassemblement National et LFI dans...
Donc vous pourriez travailler avec LFI, mais pas avec le RN ?
Je pense que ces partis vont être amenés à se métamorphoser sans doute dans le cadre de la campagne. L'héritage qui est celui du Rassemblement National, qui est un héritage très lourd, à la fois de xénophobie, de racisme, préférence nationale. Quand j'entends les patrons recevoir aujourd'hui le Rassemblement National, ils oublient que au cœur du projet de Marine Le Pen, il y a la priorité nationale, c'est-à-dire que les entreprises sont obligées de...
C'est une faute que les patrons...
Mais c'est un changement de démocratie et c'est un changement de monde. Et ce que je crois, c'est qu'il faut, dans ce contexte...
Mais je comprends que vous aurez encore beaucoup de choses à dire et donc vous reviendrez. Merci, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, et vous le dites, vous êtes aujourd'hui, d'après vous, en mesure aussi de travailler avec tout cela pour une nouvelle démocratie. Merci d'avoir répondu à mes questions, il est 8h49. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Jordan Bardella était mon invité dans le face-à-face et il était resté face à Canteloup.
Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue dans Qui veut gagner des élections. Et notre candidat du jour, c'est Jordan. Bonjour Jordan. Je précise qu'on parle bien des élections municipales, mais oui, parce que quand on voit le physique de Jordan, on pourrait penser que vous participez plutôt à l'élection de Mister France. Allez, ne nous égarons pas. Voilà. Tout de suite, la question. Cher Jordan, pour que le RN remporte les élections municipales, il faut un projet clair et ambitieux, réponse A. Surtout pas de brebis galeuses, réponse B. Des dérapages de Jean-Luc Mélenchon, réponse C. Supprimer les candidatures de Virginie Joron à Strasbourg, anti-vax et pro-russe, de Brice Bernard à Chambéry qui fait des quenelles comme Dieudonné, ou bien encore...
Mais arrêtez, mais ne commencez pas avec les tweets de la grand-mère de la boulangère du candidat ou l'oncle du mari de la belle-sœur du charcutier.
Pascal Pro, mais qu'est-ce que vous faites là ?
Mais cette question est insupportable. Ah. Mais oui, Pauline Allon, vous le savez, vous êtes journaliste, elle est orientée, cette question, pardon, mais il faut préciser aussi que dans ce jeu, il y a des jokers. Ah. L'appel à un ami, ce n'est pas fait pour les chiens. C'est essentiel. C'est essentiel, l'appel à un ami pour gagner une élection. Surtout quand l'ami en question s'appelle Vincent Bolloré.
Ah. On va faire un point sur la situation au Proche-Orient. On retrouve tout de suite Christophe Delay. Tiens, certainement le journaliste le plus précis de toute la rédaction de BFM TV. Bonjour Christophe, où est-ce qu'on en est ?
Oui, bonjour Apolline. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure qu'il est, c'est-à-dire à 8h57 à l'instant, heure de Paris, c'est-à-dire 11h27, soyons précis, heure de Téhéran, nous dénombrons très exactement, vous m'interrompez si je m'égare, on dénombre très exactement 41 missiles tirés, donc, par les Iraniens sur leurs voisins du Golfe, alors que du côté américain, nous en sommes très exactement à... Soyons prêts.
Christophe, pardon de vous interrompre, mais là, ça bouge à l'instant sur Dubaï.
Oui, allez-y, Didier François, vous êtes notre envoyé spécial, je rappelle, dans le golf, en direct, bien sûr, des studios de BFM sur place dans le 15e à Paris. C'est dire si vous connaissez le terrain. Didier François, dites-nous en plus, cher Didier François.
Oui, donc le score vient d'évoluer sur Dubaï avec un nouveau missile iranien en pleine lucarne de l'hôtel Four Seasons.
Merci, cher Didier François, pour ces précisions. Donc cela, vous m'interrompez si je m'égare, cela porterait donc, je parle bien sûr au conditionnel, le score à 42 missiles iraniens, soyons précis. Et du côté américain, nous en sommes très exactement à...
Christophe, nouvelle frappe américaine cette fois, autant pour moi, Christophe, elle a été interceptée par le gardien de la Révolution.
Écoutez, vous avez bien fait, cher Didier François, de nous interrompre, car la priorité, je rappelle, sur BFM est au direct. Le score reste donc, soyons précis, le score est précis, donc 117 missiles et demi pour les Américains, tandis que de leur côté, les Iraniens sont...
Pardon Christophe, pardon de vous interrompre, mais là, ça s'agite vraiment du côté du Koweït, où après la chute d'un avion F-15, les Américains sont en train de demander la VAR. Oui, la VAR, et à l'instant, l'arbitre qui visionne et qui ne... Oh là 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 là, donc il ne valide pas le point pour les Iraniens, puisqu'il s'agit d'un tir de la défense koweïtienne, donc contre son camp. Apparemment, voilà où on en est.
Merci, cher Didier François. Écoutez, nul doute que nous en parlerons bien sûr ce soir avec Daniel Riolo et Gilbert Bibois dans l'After Frappe. Et dès 18h, bien sûr, sur RMC, dans Rotten sans flamme et le Moyen-Orient aussi.
On continue de parler de la guerre au Moyen-Orient avec Emmanuel Macron. Bonjour, monsieur le président. Vous serez tout à l'heure en déplacement à Chypre.
Oui. Et vous ne me demandez pas ce que je vais faire à Chypre, Apolline de Malherbe?
Vous allez rencontrer votre homologue chypriote. Paphos, Nikos, Christodoulias, ainsi que le premier ministre grec. Ça m'avait fait un petit cadeau. Kyriakos Mitsotakis. Voilà.
Bravo. Merci. Non, c'était juste pour vous voir entendre galérer, voilà. Prononcer leur nom. Vous n'êtes pas encore la stature internationale. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'ambiance est pesante en ce moment, alors j'essaye juste de détendre l'atmosphère
En France, quand même, la grogne monte contre la hausse des prix du carburant, monsieur le président.
Oui, enfin, franchement, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas ça.
Ah bon?
C'est mon Lecornu.
Ah oui.
Attendez, il s'est tapé le marathon du vote du budget, des votes du budget, les motions de censure, là maintenant la crise du Moyen-Orient, mais comment il va tenir le coup, mon Lecornu, avec le blocage du détroit d'Hormuz? Parce qu'il faut le savoir, c'est par là que transitent la plupart des antidépresseurs mondiaux fabriqués en Inde. Également, près de la moitié des vêtements confectionnés au Bangladesh, dont ces fameux pulls mous, si mon Lecornu se retrouve à court des deux, on est mal. Il est capable de faire une connerie, oui, de carrément se taillader les sourcils.
Face à la situation au Moyen-Orient, la Russie a proposé aux Européens de les approvisionner en pétrole. Marine Le Pen, vous vouliez réagir?
Et voilà. On y arrive, voilà. Donc la Russie, n'est-ce pas? Et nos compatriotes russes qui vont nous sauver. Et on les entend moins, ceux qui disaient que Marine, c'était la vilaine copine de la méchante Russie, n'est-ce pas? Mais c'est quand même elle qui va vous permettre de faire démarrer la 306. Alors pour qui on va voter si on veut de l'essence en 2027? Rassemblement National, vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
C'était Nicolas Canteloup, place au GG. Quel est le programme, Olivier?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent, elles seront en direct à partir de 9h sur RMC, RMC Story. La crise du carburant, le Premier ministre doit faire de nouvelles annonces ce soir. Michel-Édouard Leclerc hier expliquait que cette crise devait peut-être durer jusqu'à l'hiver prochain. Êtes-vous prêt à vous serrer la ceinture? C'est la question qu'on posera aux grandes gueules et à vous au 32-16. Et puis aujourd'hui aussi, face aux grandes gueules, le maire de Cannes est candidat à l'élection présidentielle, David Lisnard. À tout de suite.